Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Madame, monsieur, bonjour. Qui n'a rêvé un jour de pénétrer dans l'une des cités les plus fermées du monde, la cité du Vatican, pour y admirer les trésors culturels, intellectuels, religieux, artistiques qui y sont enfermés? C'est dans cette capitale du plus petit état du monde, une capitale où se pressent des foules immenses, des curieux autant que des pèlerins, que nous invite le numéro du Figaro hors série consacré au Vatican. Et comme toutes les merveilles du monde, le Vatican est encombré de clichés. Qu'offre donc de nouveau, de rare, d'insolite, d'exceptionnel ce numéro hors série du Figaro avec lequel Canal Académie est partenaire? Pour vous le présenter, j'ai le plaisir de recevoir dans notre studio Isabelle Schmitt. Bonjour Isabelle.
Bonjour Hélène.
Vous êtes responsable de l'iconographie de ces numéros hors série et qui les a déjà consultés sait combien cette iconographie est tout à fait magnifiquement choisie. Alors ce numéro hors série qui nous invite dans une sorte de visite privée du Vatican en quelque sorte, est-ce qu'il nous propose de visiter des lieux inhabituellement inaccessible au public, interdit même peut-être? Comment ça se passe?
Oui, effectivement, nous avons voulu que dans ce numéro, on puisse découvrir le Vatican le plus connu, mais qui souvent reste méconnu, que je pense à la basilique Saint-Pierre par exemple, ou aux basiliques majeures qui là ne sont pas dans ce numéro, mais seront probablement dans un numéro à venir. Donc des choses les plus connues, ou la chapelle Sixtine qui est ultra vue et revue. On pense qu'on la connaît, mais en fait, quand on s'y intéresse de plus près, on découvre encore mille et une choses. Donc, à côté de ces choses connues et ouvertes au public, nous avons voulu pouvoir donner à nos lecteurs une idée des lieux inaccessibles, voire secrets, puisque certains s'appellent secrets, comme les archives secrètes du Vatican, et de pouvoir pénétrer dans ces lieux et de permettre à nos lecteurs d'en faire une visite virtuelle.
Alors l'organisation de ce sommaire de hors-série, elle est un peu toujours la même dans les hors-séries. Il y a d'abord de somptueuses photos, ça commence par des photos. Dans une première partie intitulée « L'esprit des lieux », avec un petit texte que je me permets de lire parce que je trouve qu'il résume très bien l'atmosphère. « Si la cité du Vatican fascine, c'est parce que la vie quotidienne s'y déroule dans un fabuleux décor à l'ombre des plus beaux chefs-d'œuvre de l'art occidental. » Alors Isabelle Schmitt, vous avez accompagné les photographes qui ont photographié ces lieux de l'art occidental absolument
Alors,
somptueux.
Alors non, je n'ai pas accompagné les photographes parce qu'en fait, nous avons fait appel à ceux qui sont en place au Vatican, qui travaillent tous les jours dans la cité du Vatican et qui sont principalement les photographes de l'Osservatore Romano et de la Fabrique de Saint-Pierre. La Fabrique de Saint-Pierre,
Mais vous y êtes allé tout de même.
Ah, j'y suis allé, bien sûr. Bah j'ai eu le privilège de passer.
Pas accompagné, mais vous êtes allé à Rome.
Et voilà, plus de deux semaines sur place et d'avoir droit à des visites de presque tous les endroits visibles du Vatican, mis à part évidemment l'appartement privé du pape et son bureau que nous n'avons pas eu la chance de visiter. Mais
il faut tout de même le laisser un peu tranquille.
Il faut tout de même le laisser un petit peu tranquille. Parce qu'on l'explique aussi dans notre numéro avec un article consacré à une journée de Benoît XVI, qu'il a une vie extrêmement chargée.
On s'en doute.
Et donc, j'ai pu bénéficier de visites faites par le personnel du Vatican et les gens qui travaillent sur les lieux. Et ça, c'est assez passionnant, en fait, de pouvoir découvrir ces lieux par des gens passionnés par une histoire qui les habite et dans laquelle ils vivent au quotidien. Je pense notamment à la Fabrique de Saint-Pierre, à laquelle je faisais allusion tout à l'heure. La Fabrique de Saint-Pierre, c'est une entité qui a été fondée un peu après la basilique. Enfin, je veux dire, pour accompagner la construction de la basilique, en 1523, le pape Clément VII a décidé d'instaurer une commission de 60 experts, qui pouvaient être à la fois des artisans, des artistes, des comptables, des intellectuels, qui étaient chargés de superviser la construction de Saint-Pierre, sa décoration, la gestion des pèlerinages, etc. Et en fait, cette fabrique de Saint-Pierre existe toujours aujourd'hui.
Et qui fabrique-t-on ?
Qui fabrique-t-on ? Alors, évidemment, à l'origine, c'était évident, on fabriquait tout simplement les colonnes, les monuments, les décorations. Et aujourd'hui, enfin, au fil des siècles, sont apparus les problèmes de restauration des œuvres, puisque, en fait, assez vite, les peintures se sont abîmées, les mosaïques se sont détériorées, et donc il a fallu faire appel à des corps de métier qui avaient déjà œuvré pour la construction, mais qui sont revenus et qui se sont installés à domicile, je dirais, pour être en mesure d'intervenir à tout moment pour restaurer les chefs-d'œuvre. On a eu notamment une visite particulièrement intéressante à l'atelier de mosaïque, qui là, pour le coup, est ouvert au public sur demande. En fait, il faut écrire à la fabrique de Saint-Pierre, tout ça est indiqué dans notre numéro. Et on peut pénétrer, donc, au chevet quasiment de la basilique Saint-Pierre, il y a un petit atelier où travaillent 13 mosaïstes qui ont été formés sur le tas, c'est eux-mêmes qui emploient cette expression, mais qui expliquent qu'en gros, cette tradition qui est venue de Venise à Rome s'est perpétrée depuis que les maîtres mosaïstes sont arrivés, donc depuis le XVIe siècle, et cette technique n'a jamais été interrompue. Avec donc des innovations techniques, par exemple, il a fallu, à la fin du XVIIe siècle, début du XVIIIe, le programme décoratif de Saint-Pierre était achevé, la basilique était achevée, et donc la question s'est posée pour les mosaïstes, mais est-ce qu'on va encore avoir du travail à Rome ou à la fabrique de Saint-Pierre ? Et en fait, la réponse était oui, parce que les grands tableaux qui étaient dans la basilique ont commencé à s'abîmer avec l'humidité, les visites, les pèlerinages, et on a songé à les remplacer par des mosaïques. Mais alors le problème qui s'est présenté, c'est que ces mosaïques avaient un émail brillant, qui donc ne pouvait pas imiter la texture d'un tableau. Et ce sont deux maîtres mosaïques qui ont cherché pendant des années, voire des décennies, jusqu'à trouver un procédé formidable qui permettait de faire un émail opaque et donc d'imiter tous les tableaux. Et c'est assez incroyable de voir à Saint-Pierre la Transfiguration de Raphaël, par exemple, d'avoir l'impression qu'on est devant le vrai tableau, alors qu'en fait le vrai est au musée du Vatican et qu'on est devant une mosaïque, mais qui imite presque parfaitement la texture du tableau.
On sent, Isabelle Schmitt, que cette visite de l'atelier de la fabrique de Saint-Pierre, ça vous a passionné.
Ah oui, ça m'a beaucoup
dans
intéressé.
Dans votre article, d'ailleurs, vous êtes très enthousiaste. Vous communiquez cet enthousiasme.
Non, c'est vrai que c'est quelque chose de merveilleux, parce qu'en plus, ça montre à quel point l'Église a été mécène dans le passé, mais l'est encore. L'un des mosaïques nous expliquait que pour un artiste, c'est quelque chose, à ses yeux, d'unique au monde, de pouvoir travailler sur une tradition artistique aussi ancienne, avec l'assurance que ce savoir-faire ne va pas disparaître, qu'il y aura toujours des commandes. Il faut savoir que les papes, souvent, offrent des mosaïques lorsqu'ils partent en voyage, ils donnent ce cadeau, alors qu'ils peuvent être des copies de tableaux, des vues d'une Vierge à l'enfant.
Ah oui, c'est un cadeau que l'on fait au chef d'État,
exactement.
Etc. Oui.
Benoît XVI a emmené, par exemple, une vue de Saint-Paul hors les murs en Afrique. C'était une vue donc, de la basilique Saint-Paul, avec des palmiers, des choses, une végétation assez luxuriante qui s'apparentait peut-être à celle de l'Afrique et qu'il a songé opportun d'offrir. Donc voilà, c'est un exemple de l'Église mécène des artistes encore aujourd'hui.
Alors vous avez été aussi introduite dans une autre salle tout à fait étonnante, c'est ce qu'on appelle des salles d'archives qui sont sous la coupole Michel-Ange.
Exactement.
Alors, ça aussi, vous avez bien vécu un grand moment.
Oui,
là.
Oui, c'est assez. On se sent très privilégié quand on rentre là, parce que c'est un lieu totalement insoupçonné. En fait, on monte, il y a un ascenseur qui est dans un des piliers de la basilique, qui nous monte en fait au bas de la coupole. Là, on a la vue plongeante sur le chœur, la basilique et qui est magnifique d'ailleurs, qui montre à quel point c'est un chef-d'œuvre d'architecture aussi vu de haut. Et en fait, on rentre dans une des salles qu'on appelle octogonale, tout simplement parce que les quatre piliers autour du ciborium forment un octogone qui est parfaitement visible de haut. Et donc, les salles, en réalité, qui sont circulaires, sont appelées salles octogonales. Il y en a 8. Elles ont été créées au départ pour alléger la structure de la coupole. Et en fait, elles ont servi d'atelier aux différents artistes, dont Michel-Ange notamment. Et alors aujourd'hui, ces salles servent d'archives de la fabrique de Saint-Pierre. On y trouve 5 siècles de documentation de toute l'histoire de la construction de la basilique, ce qui forme la modique distance de 85 km d'archives. Toutes ces archives ayant été triées par un moine olivetain qui a passé 20 ans de sa vie à trier dans des salles sans lumière, sans chauffage.
Il y a sort plus malheureux,
mais enfin, c'était un travail de titan. Et alors, ce qui est fabuleux aussi dans ces salles, c'est qu'on a le privilège de voir l'ancien ciborium, c'est-à-dire l'autel en fait, de la basilique constantinienne qui existait avant la basilique Saint-Pierre que nous connaissons et qui est en fait l'ancêtre du baldaquin du Bernin qu'on voit aujourd'hui au-dessus de l'autel. Et là, ce ciborium représente le martyr de Saint-Pierre et celui de Saint-Paul. donc les apôtres qui sont les
fondateurs
de l'Église.
Et en effet, ce numéro hors série, c'est l'un de ses intérêts, il y en a beaucoup, mais celui-ci, c'est de présenter largement justement cette basilique constantinienne et le travail de Constantin à Rome, ce qui est assez peu fréquent en effet.
Oui, c'est vrai que Laurent Dandrieux, qui est l'auteur de cet article, a beaucoup cherché de documentation et nous avons eu la chance de trouver des images de cette basilique, donc des gravures, des reconstitutions, qui nous montrent à quel point elle était différente de celle que l'on connaît aujourd'hui. Elle pourrait ressembler de très loin, en tout cas pour l'intérieur, à Sainte-Marie du Trastevere aujourd'hui. Et c'est vrai que cette basilique de Constantin, au départ, devait être rénovée. Et puis finalement...
On a tout changé.
On a absolument tout changé. Et alors, il y a quelque chose de fascinant également dans la salle d'archives, c'est la maquette Antonio da Sangallo, qui était le prédécesseur de Michel-Ange, qui aurait dû construire la basilique Saint-Pierre, la nouvelle, et en fait, qui a mis 7 ans à construire sa maquette, dont on dit qu'elle a coûté le prix d'une petite église. Et c'est une maquette en bois magnifique que l'on découvre dans ces salles octogonales. C'est une maquette qui s'ouvre en deux. On peut pénétrer à l'intérieur et voir même l'intérieur de ce qu'aurait été Saint-Pierre. Et c'est là qu'on réalise à quel point Michel-Ange est un génie de l'architecture, parce que cette maquette, malgré tout le travail qu'elle a représenté, etc., au résultat, est assez lourde et donne une image assez obscure. La lumière ne pénètre pas, il y a énormément de piliers, de contre-allées, etc. Et donc Michel-Ange a convaincu le pape qu'il avait chargé de reprendre la construction de Saint-Pierre, de tout changer. Il a fait faire une maquette totalement allégée. Et en découvrant en tout cas les photos de cette maquette, je pense que nos lecteurs apprécieront d'autant plus la magnifique basilique qu'on a aujourd'hui.
Isabelle Schmitt, parmi les rédacteurs qui ont rédigé des articles dans ce numéro du Figaro hors série consacré au Vatican, on note le nom de Marie-Françoise Balèze, qui est professeure d'histoire ancienne à l'université de Paris 12.
Marie-Françoise Balèze est une spécialiste de la nécropole de Saint-Pierre, entre autres, et elle a consacré beaucoup de ses travaux aux fouilles qui ont été menées sous Saint-Pierre de Rome et qui ont révélé que très probablement, les ossements retrouvés sous l'autel de la basilique Saint-Pierre sont bien ceux de l'apôtre Pierre.
Elle a pu le démontrer, enfin le prouver archéologiquement.
Elle a pu en tout cas donner beaucoup d'éléments qui tendent vers là. Je ne voudrais pas parler en son nom parce que, évidemment, pour les spécialistes, les choses sont
toujours plus nuancées.
Mais enfin, elle a réalisé une étude passionnante aussi sur la façon dont le monde romain s'est converti. Et elle nous emmène dans son article dans une promenade en fait de la nécropole qui est précisément en dessous de Saint-Pierre de Rome. Parce que ce que l'on sait moins, on sait qu'il y a l'étage des grottes vaticanes dans lesquelles se trouvent les tombes des papes. Et c'est à cet étage également que se trouve la tombe de Saint-Pierre. Mais on sait moins qu'en dessous de ces grottes vaticanes se trouve une véritable ville construite entre le 1er et le 3e siècle après Jésus-Christ. Une ville funéraire, en fait, où les Romains, la bourgeoisie romaine aisée, allaient enterrer les siens en faisant des monuments funéraires et des tombeaux qui sont encore magnifiques et que l'on découvre avec des couleurs incroyables, des représentations tout à la fois en peinture et en mosaïque qui sont remarquablement conservées. Et au sein desquels on a retrouvé la tombe, enfin, qui a été identifiée vraisemblablement comme la tombe de Saint-Pierre.
Isabelle Schmitt, il y a bien sûr dans la dernière partie de ce numéro hors-série, ce que vous faites toujours dans ces hors-séries du Figaro, c'est-à-dire un complément d'enquête, une sorte de guide pour aider le lecteur à s'y retrouver, à aller dans les meilleurs lieux, à trouver la meilleure documentation,
oui,
bibliographie.
Voilà. Nous avons essayé effectivement de lui recommander un certain nombre de lectures qui pourront le guider dans ses pérégrinations romaines ou lui rappeler ses visites et lui donner des compléments. Je pense à tous les livres de critique d'art, notamment sur les musées du Vatican, la chapelle Sixtine ou bien la nécropole de Saint-Pierre, pour ceux qui parlent italien, parce que malheureusement, ce petit livre du docteur Zander, qui est le spécialiste au Vatican, n'a pas encore été traduit, mais il est tout à fait passionnant. Et on donne aussi, oui, des indications pratiques pour les visites. Qui veut visiter les jardins doit appeler à tel numéro, qui veut essayer d'assister à la messe le matin à Saint-Pierre de Rome peut y aller et réserver pour son groupe en appelant la sacristie. Voilà, ce sont des petites choses qui
facilitent la vie et la visite.
Qui facilitent la vie et qui permettent de découvrir le Vatican pour ce qu'il est vraiment, et non pas seulement un gigantesque musée et quelque chose, mais vraisemblablement véritablement le cœur de l'Église universelle qui vit toujours et qu'on peut découvrir comme cela.
Merci Isabelle Schmitt de nous avoir fait découvrir ce numéro hors série du Figaro consacré au Vatican sur les traces de Saint-Pierre, le Michel-Ange inconnu, le palais des archives secrètes.
Voilà, c'est un j'ajoute numéro... pour les bibliophiles qu'ils trouveront deux articles consacrés à la Bibliothèque Vaticane et aux archives secrètes du Vatican qui sont deux lieux tout à fait passionnants.
Merci infiniment, à bientôt.
Merci Hélène.